Alors voilà l'entrée d'un météore dans l'atmosphère terrestre. Ce qu'on entend de manière distinctive, c'est d'abord un signal qui glisse des hautes vers les basses fréquences. Et ça, c'est l'entrée du météore dans l'atmosphère quand il est en train de se vaporiser, littéralement. Et puis à la fin, au bout d'un certain parcours, en quelques kilomètres dans l'atmosphère, il est complètement vaporisé. Les météores sont tout petits, hein. Ce sont des grains de très petite taille, beaucoup plus petits que le centimètre. Hein. Voilà, alors il y a plusieurs choses ici. Il y a des sons à fréquence constante qui sont plutôt des parasites, et à la fin, vers les graves, pareil, la traînée du nuage de plasma, en fait, créé par le météore qui va réfléchir le radar grave. Mais au début, vous avez entendu ce sifflement qui ondule, et ça, c'est vraiment un météore. Et on pense que c'est dû à la rotation du météore sur lui-même, en même temps qu'il est en train de descendre dans l'atmosphère. On va aller voir le Soleil. Alors le Soleil, lui, c'est très particulier. Il est au centre de notre système planétaire. Il produit l'énergie qui nous permet de vivre, la gravitation qui lie le système ensemble. Et puis, le Soleil est très actif magnétiquement, à des cycles d'activité. On est en ce moment dans un maximum de cycles, donc il y a plein d'émissions radio solaires. Et dans ces cycles, le Soleil éjecte du plasma, donc des bouffées d'électrons et d'ions, et ces éjections, en parcourant l'atmosphère du Soleil, provoquent des oscillations qui produisent des ondes radio, qu'on appelle des sursauts radio solaires. Alors en voilà deux très emblématiques produits il y a très longtemps, mais il y a les mêmes aujourd'hui, hein. Ça c'était en 91. Voilà, on a deux sursauts très différents. Alors ça c'était la version des données brutes. L'avantage en numérique, c'est qu'on peut nettoyer les données. Voilà le même avec uniquement les émissions solaires. Alors on entend clairement qu'il y a deux émissions qui sont très différentes. La première émission, c'est une éjection de matière tellement violente qu'elle va générer une onde de choc qui va balayer en fait la couronne du Soleil, et ce choc il va en quelque sorte allumer l'émission radio là où il passe. Le deuxième phénomène, beaucoup plus rapide, lui, c'est pas un choc, c'est un faisceau d'électrons accéléré lors de reconnexions magnétiques dans la couronne. Ces faisceaux sont libérés et ils sont immédiatement accélérés à des énergies très élevées, des vitesses qui peuvent atteindre jusqu'à 100 000 km par seconde. Et donc on va entendre un très rapide ici. Quand on parle du Soleil et de son, on peut faire allusion à essentiellement trois choses. Les sursauts solaires en radio, qui sont ceux que je vous ai fait écouter précédemment, donc les éjections de matière qui vont faire osciller le milieu et lui faire produire des champs électriques variables qui sont des ondes radio. En dessous de ça, dans la basse couronne solaire, on a un milieu qui est collisionnel. Donc on n'est pas dans l'espace vide. Dans un milieu collisionnel où la matière est en collision, on peut transporter des sons en principe, puisqu'on avait dit qu'un son c'était une onde de matière. Alors comment on les détecte? Pas directement. On n'a jamais été mettre un micro dans la basse couronne solaire, d'abord parce qu'on n'y a pas été, ensuite parce que le micro fondrait bien avant d'arriver. Bon, et se vaporiserait. Bon. Donc en fait on a des données d'autre nature, des données spectroscopiques, en optique, en UV peut-être, etc., qui permettent d'imaginer, on va dire, ce que serait le son collisionnel là-dedans. Et le troisième aspect, c'est que l'intérieur du Soleil, comme l'intérieur des étoiles, oscille, a des fréquences propres. En fait, le Soleil, ce n'est pas une sphère rigide, c'est une sphère de gaz sous l'effet de la gravitation, et il peut y avoir des oscillations de ces couches, oscillations radiales, oscillations azimutales, et donc il y a toute une discipline, une branche de la physique solaire qui est la sismologie solaire. On étudie vraiment les tremblements du Soleil et ces tremblements cohérents, qui sont des réseaux d'ondes qui se déplacent. Et ces ondes, on peut les traduire comme des ondes acoustiques. Ce sont en fait, pour certaines, des ondes acoustiques, donc ondes audio, mais inaudibles, beaucoup plus basse fréquence. Et donc on peut là aussi en faire des transpositions sonores. Pour l'observation, la surveillance, on pourrait imaginer, mais là je spécule, hein, je préviens, que de même qu'il nous est arrivé en observation de Jupiter, pour des observations très longues où on voulait enregistrer le signal uniquement quand des phénomènes de sursaut millisecondes se produisaient, plutôt que de tout enregistrer, ou alors de suivre à l'œil sur un écran le déroulement du signal jusqu'au moment où les signaux se produisent, on pouvait les traduire en son et les écouter. C'est beaucoup plus reposant. Et quand on entend les glissements caractéristiques, tchou, 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 hop, on sait que le signal est là et donc on peut déclencher l'enregistrement. Est-ce qu'on peut faire l'analogue pour certains phénomènes solaires? Peut-être.
Celui-là, je l'aime bien parce qu'on entend d'abord des événements comme ça, des petits sauts dans le vent solaire qui sont totalement normales, hein, ça varie énormément. Donc là, on entend une journée entière. On entend de minuit à minuit. On entend le 10 mai, la journée du 10 mai. Pourquoi le 10 mai? Parce que le 10 mai, la Terre s'est pris une rafale de vent solaire tellement intense que ça a créé des aurores qui sont descendues jusqu'en France, quasiment, jusqu'au sud de l'Angleterre. Et ça, c'est un phénomène relativement rare. Il est totalement normal, mais il est rare. Et donc, on a entendu le vent solaire là qui arrive. Donc, ce qu'on entend d'abord, c'est le vent moyen avant que la rafale arrive, c'est-à-dire que tout se passe bien. On a un vent qui va à environ 400 km par seconde, donc c'est une vitesse tout à fait normale, c'est sa vitesse moyenne. Et puis, tout d'un coup, on a une explosion où le son part très aigu et puis très fort. Et ça, c'est l'arrivée de plusieurs éjections de masse coronale, donc c'est plusieurs éruptions du Soleil qui arrivent à peu près en même temps. Et qui là inonde complètement ce pauvre satellite qui se retrouve dans une tempête incroyable. Et ça, c'était une vingtaine de minutes avant que ça arrive sur Terre, une vingtaine de minutes avant, on entendait ça sur le satellite. Je m'appelle Quentin Davaux, je suis médiateur scientifique. Je suis quelqu'un qui est là pour faire la passerelle entre le public et les scientifiques et essayer de travailler avec eux pour expliquer leurs travaux, de leur donner un aspect un peu intelligible pour le public et faire en sorte que les gens puissent s'emparer de ces connaissances-là et les apprendre. En entendant le premier son, la première fois, je me suis dit, j'ai fait parler l'univers. Mais je me suis dit, oh, j'ai trouvé une manière très simple d'écouter l'univers par moi-même et de le faire parler. À la base, la sonification du vent solaire, en fait, on a la chance d'avoir des satellites qui sont en dehors du champ magnétique de la Terre, loin, et qui donc se prennent le vent solaire tel qu'il est. J'ai pris les données de ce satellite, j'ai testé, et puis un jour je me suis retrouvé avec une partition de piano, et je me suis dit « Oh, ça c'est intéressant ». J'ai écouté ce que ça donnait en le mettant sur mon ordinateur, et là je me suis retrouvé avec un piano qui jouait la partition du vent solaire. Et j'ai trouvé ça incroyable, j'ai trouvé ça super beau. Je l'ai envoyé immédiatement à mes amis qui sont scientifiques dans le domaine, qui m'ont dit « Oh, c'est super, c'est trop bien, on entend le vent solaire. » Et à partir de là, je me suis dit « D'accord, c'est bien le piano, mais c'est un peu moche. » Et donc, j'ai commencé à essayer de travailler le son avec des sons que j'avais pu prendre, moi, de mon côté, de vent notamment. Et j'ai commencé à essayer de donner à ce vent solaire l'aspect d'un vent tel qu'on pourrait l'entendre sur Terre. Il y a vraiment l'objectif de faire ressembler ça le plus possible à un vent terrestre, parce que le vent, c'est dans l'atmosphère de la Terre. Le vent solaire, c'est dans l'atmosphère du Soleil. Il y a une analogie qui est directe. Il y a des similitudes même dans le comportement du vent solaire. Il y a des changements de densité, de vitesse qui sont parfois très rapides. D'une minute à l'autre, on peut se prendre une rafale incroyable de vent solaire qui peut créer d'ailleurs des aurores après. J'ai essayé plein de choses et notamment des sons un peu futuristes, un peu forcément de science-fiction et tout. Je trouvais que ça perdait de sa poésie. En fait, c'était trop attendu. On s'attend trop à ce que ça ressemble à ça. À quelque chose d'assez incompréhensible, des nappes comme ça, de sons qui rappellent des œuvres de science-fiction, etc. Et la beauté dans tout ça, c'est le fait que c'est littéralement un vent, parce que c'est notre environnement proche. Et il se trouve que la météo de l'espace, le vent solaire, c'est quelque chose qui est extrêmement proche. On n'en a pas l'impression, mais c'est quelques dizaines de kilomètres au-dessus de nous seulement, et que ça fait partie de notre monde. Et prendre conscience que le monde ne s'arrête pas au plus haut de nos montagnes ou même à notre atmosphère, mais qu'il s'étend au-delà et qu'il prend vie et qu'il y a énormément de phénomènes là-haut, ben en fait, peut-être que la manière la plus simple de le faire prendre conscience aux gens de ça, c'est de leur faire écouter des sons qui peuvent leur paraître familiers. Donc le vent, par exemple. Ce serait intéressant d'ailleurs d'essayer de voir est-ce qu'on pourrait représenter la pluie avec des données scientifiques de l'univers. C'est la nature, en fait, aussi là-haut. Je pense qu'on a l'habitude de voir des images du ciel. On a peut-être moins l'habitude de l'écouter. Il y a pas mal de personnes qui, en écoutant ce son-là, qui ont dit « Oh, c'est terrifiant !» Et ce message-là, si c'est terrifiant, je trouve que ça donne un peu trop de crédit aux théories de collapsologie ou à la délectation qu'on a de parler de fin du monde ou d'effondrement, etc. Avec ces sonifications, on a la chance d'écouter un phénomène qui nous est totalement inatteignable, qui nous est totalement inconnu. Il y a encore 60 ans, on ne savait pas que ce phénomène-là existait. Et là, on l'entend.
Ces sons, en fait, quand moi je les crée, donc en traduisant des phénomènes physiques...
L'astrophysicien Philippe Zarca.
Je peux avoir non pas 12 notes par octave, mais je peux en avoir 50 ou 3 ou 75. Donc ça va donner des sons forcément inhabituels, parce qu'on n'a pas l'habitude d'associer ces fréquences ensemble. Donc en général, ce sont des plages épaisses, donc on a en fait plusieurs sons ensemble, plusieurs fréquences toujours à chaque instant, comme si on appuyait avec la main sur un clavier de piano pour produire plusieurs notes à la fois. Sauf que c'est un clavier avec beaucoup plus de notes qu'un piano. Donc là aussi, ça produit un aspect un peu dérangeant. Inhabituel, à la fois dans la densité des notes et leur étagement en fréquence. Saturne, c'est un vrai festival parce que nous avons bénéficié de la visite de Saturne par la mission Cassini. Et la mission Cassini emportait un récepteur radio absolument merveilleux qui a été fabriqué au Lésia, ici dans mon laboratoire. Et il a exploré la magnétosphère, la bulle magnétique de Saturne et son environnement en général de manière très détaillée. Les sons de Saturne ont vraiment ce caractère fantomatique un peu bizarre. C'est peut-être le rythme auquel on les fait varier. Peut-être que si on les comprimait plus dans le temps ou moins, on n'aurait pas cet effet-là. Tous les sons ne donnent pas cet effet-là. Après, on pourrait dire aussi un peu un lieu commun. Hein. Tout ce qui est inconnu est frais. Je veux dire, ça, c'est la nature humaine. Hein. C'est pour ça qu'en général, on massacre les inconnus, qu'on n'aime pas les migrants, les étrangers, etc. Après, peut-être qu'on a utilisé ce type de son glissant un peu étrange dans les films de science-fiction, les films d'horreur aussi. Voilà, il y a peut-être un aspect culturel là-dedans. On peut avoir, bien sûr... un imaginaire, on n'est pas vierge, hein. On a un imaginaire culturel, un vécu lié au son, et on a des sons qui vont nous rappeler des phénomènes. Les basses grondantes, c'est le tonnerre, les craquements, c'est l'éclair, les sifflements, voilà. Ça dépend du vécu, de la culture, de la symbolique. « Il paraît qu'on dit que le cinéma est en avance sur la science. En fait, je ne suis pas d'accord parce que le cinéma, aujourd'hui, j'ai l'impression, de science-fiction en particulier, est quand même assez décalé par rapport à la science. C'est-à-dire que certes, il peut imaginer des choses qui n'existent pas encore, qui n'existeront jamais. On peut faire des films sur l'exploration de mondes lointains. Dans ce sens-là, on peut dire que c'est en avance. Mais par ailleurs, et probablement par peut-être un manque de pont encore entre art et science, hein, entre cinéma et science, il y a un nombre considérable d'avancées astronomiques dingues qui sont absentes du cinéma. Le cinéma, finalement, il est très en avance dans l'exploration d'autres mondes, mais il reste extrêmement prosaïque. On explore finalement quoi ? Des planètes ? Hein, dans Interstellar, bon bah ok, la Terre est dans un triste état, hein, ce qui est la réalité, encore plus triste dans le film, et puis on va explorer, rechercher d'autres planètes habitables. C'est en avance sur les moyens technologiques d'exploration, c'est pas du tout en avance sur les connaissances scientifiques. Donc je dirais que la sonification, qui va être une aide, hein, une aide justement à la vulgarisation, donc au dialogue, c'est pour moi du dialogue art-science, et en l'occurrence science-cinéma, que peut émerger bah, des films extrêmement nouveaux, extrêmement futuristes et novateurs, et qui rattraperait la science pour le coup.
Avant, quand on levait les yeux vers le ciel, on s'interrogeait sur notre place parmi les étoiles. Là, on fait que baisser les yeux et se soucier de notre place dans la poussière.
C'était Le Son des Planètes, deuxième épisode, l'imaginaire. Avec le médiateur scientifique Quentin Davot et l'astrophysicien Philippe Zarca. Réalisation Aurélien Frances. Une production de Silence Podcast avec le soutien du ministère de la Culture.